Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le statut des cheminots sera abandonné au 1er janvier 2020. Cette annonce gouvernementale ravive encore la colère des syndicats mobilisés contre la réforme de la SNCF. Alors que 4 universités sont toujours complètement bloquées, 6 présidents d'universités appellent le gouvernement à ouvrir des négociations sur les modalités de mise en œuvre de Parcoursup. Le calendrier électoral s'accélère en Turquie. Recep Tayyip Erdogan annonce des élections présidentielles et législatives anticipées dès le 24 juin. Et puis en Italie, la présidente du Sénat est chargée de trouver une majorité gouvernementale d'ici vendredi. Elle va tenter de mettre d'accord le mouvement 5 étoiles et la coalition de droite. Un TGV sur 3 circulera demain, 2 Transiliens sur 5, 1 Intercité sur 4 et 3 trains à l'international sur 4. Des prévisions identiques à aujourd'hui où la direction de la SNCF a compté 19,8% de grévistes. Mais ce soir, les syndicats sont encore plus remontés contre la réforme du ferroviaire. On a appris à la mi-journée que le statut des cheminots serait abandonné pour les nouveaux embauchés le 1er janvier 2020, c'est-à-dire au moment où la SNCF doit devenir une société nationale à capitaux publics, Hakim Kasmi.
Oui, Aurélie, filialisation du fret à la SNCF lundi, vote du projet de loi à l'Assemblée hier soir, fin du statut pour les nouveaux entrants à partir de 2020 aujourd'hui. Le calendrier s'accélère, mais ce soir, les syndicats sont extrêmement remontés par la méthode du gouvernement, comme l'explique Roger Dillemsteger, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire.
Je peux vous dire que j'ai eu un échange dans la matinée avec le président de la SNCF, j'ai eu un échange avec le ministère au courant de la matinée, personne ne m'a évoqué ce point-là. Et je l'ai appris par la dépêche AFP comme tout le monde. Donc voilà, c'est quand même totalement irrespectueux, mais ça s'inscrit, et j'ai le sentiment que ça s'inscrit vraiment dans cette volonté de passer les choses en force, outre les partenaires sociaux, outre le corps social dans sa globalité.
Pour la CFDT habituellement réformiste, qui fait partie de l'intersyndicale, le passage en force du gouvernement va au contraire galvaniser les troupes, estime Olivier Boissou, secrétaire général de la CFDT Cheminot.
Toute la loi est à écrire. Le statut, il y a pu avoir une annonce ce matin, mais comment on va faire pour la suite? Par quoi on va le transformer? Il y a encore beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de négociations à avoir et beaucoup de rapports de force à faire peser pour essayer d'avoir des bonnes décisions pour les salariés.
Le texte doit arriver au Sénat à partir du 29 mai et on est donc très loin de la fin de la grève. L'intersyndicale doit se retrouver dès demain matin.
Hakim Kasmi, ce matin à Saint-Dié-des-Vosges, Emmanuel Macron a été interpellé par des cheminots en grève. Il leur a demandé d'accepter le changement. Et à ceux qui s'inquiétaient de l'avenir de la ligne reliant Saint-Dié à Épinal, il a répondu « Le jour où la réforme est faite, on réinvestira dans les petites lignes, je m'y engage ». La CGT et Solidaires organise demain une journée de mobilisation interprofessionnelle qualifiée de journée de convergence des luttes. Plus de 130 manifestations sont prévues à travers la France. Elles doivent rassembler salariés, fonctionnaires, retraités et étudiants. Comment ramener le calme dans les universités? À Montpellier, le tribunal administratif a ordonné aux occupants de l'université Paul-Valéry de libérer les lieux sans délai. Mais 3 autres universités sont toujours bloquées. Toulouse, Jean Jaurès, Rennes 2, Paris 8. Le principal campus de la fac de Rouen a été fermé par crainte d'une extension des blocages. Et une dizaine d'autres sites, dont Sciences Po, sont perturbés. Plutôt que la force, 6 présidents d'université prônent plutôt le dialogue. Dans une tribune relayée par le magazine L'Étudiant, ils appellent le gouvernement à ouvrir rapidement des négociations sur la loi réformant l'accès à l'université. Louis-Valentin Lopez a joint Rachid El Gerjouma, président de l'Université du Mans. C'est l'un des signataires de cette tribune.
Nous insistons sur le caractère un peu d'urgence de mettre autour de la table les parties prenantes, les différents protagonistes pour parler de la meilleure mise en place de Parcoursup dans l'intérêt des étudiants et pour leur réussite. Nous en avons besoin des étudiants, nous avons besoin de plus de diplômés, nous avons aussi de par la loi l'obligation d'accueillir tous les bacheliers et il faut organiser cet accueil au mieux et pour les filières sélectives que nous abritons dans nos établissements et en même temps proposer dans nos facultés des parcours adaptés.
Dans cette tribune, vous parlez quand même de conséquences dramatiques hein, pour les universités. C'est ce que vous craignez. Est-ce que vous pouvez développer sur ce point?
Oui, je crains que des situations comme celles qui ont été vécues à Montpellier ne se reproduisent. Je crains que les étudiants qui bloquent pour faire entendre leur voix et leur opposition à la loi se heurtent à ceux qui veulent légitimement rentrer dans les locaux, passer leurs examens et autres. Et je crains que ces situations ne se dégradent et que nous soyons dans des exacerbations d'opposition. Chaque fois que j'entends parler d'université en ce moment, c'est dans un contexte de frictions et de conflits.
Et à Nanterre, le président de l'université propose d'organiser sur son campus des états généraux de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il est temps, dit Jean-François Balaudet, que nous puissions à nouveau échanger et débattre. Il se rendra à l'Assemblée générale prévue demain pour présenter ses propositions aux étudiants. Des ONG et des syndicats comme la Confédération Paysanne, ATTAC, Sudrail et les Amis de la Terre signent un appel commun pour une vraie sortie de crise à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ils réclament le retrait du dispositif militaire pour permettre des discussions apaisées. Nous reviendrons justement en fin de journal sur la situation à Notre-Dame-des-Landes. Troisième jour de débat sur la loi Asile, Immigration et Intégration à l'Assemblée. Avec de profonds clivages entre la droite et la gauche, le gouvernement ne va pas assez loin pour les uns, beaucoup trop pour les autres. Parmi les mesures qui fâchent, la réduction des délais de recours qui passe de 1 mois à 15 jours. Pour les associations d'aide aux demandeurs d'asile et pour certains avocats, cette accélération des procédures mettrait en péril leur accompagnement, notamment dans la rédaction du récit de vie texte qui doit expliquer pourquoi les migrants sont partis et pourquoi ils craignent un retour au pays. Bonsoir Léa Gage.
Bonsoir Aurélie.
Le récit de vie, c'est une part essentielle du dossier de demande d'asile.
Oui, et vous l'imaginez, c'est difficile de coucher son histoire sur le papier, sur 1 à 6 pages exactement. Des centaines de récits de vie arrivent chaque jour à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et il arrive que ces récits soient stéréotypés ou un peu incohérents. Pascal Brice, le directeur de l'OFPRA, privilégie des entretiens oraux pour mieux repérer les fausses histoires.
Nous savons qu'il arrive que des récits écrits ne correspondent pas tout à fait à ce que les personnes ont pu vivre en termes de crainte dans leur pays d'origine. Le plus souvent, c'est au cours de l'entretien que soit la personne elle-même va dire « mais non, en fait, tout ce qui s'est passé est un peu différent », soit l'officier de protection, s'il a affaire à des propos très stéréotypés, il va encourager la personne à livrer un récit plus proche de ce que la personne a pu vivre.
Les faux récits sont vite démasqués et la demande d'asile rejetée. Violaine Husson est responsable des actions pour les femmes et les victimes de violences à la CIMADE. Elle veut en finir avec l'image des migrants tricheurs qui tentent de berner l'administration.
On est plus victimes dans ces situations-là. Je me rappelle d'une personne qui était camerounaise, qui avait vécu des sévices super importants dans son pays d'origine. Et on lui a dit, c'est sa communauté. Hein. Tu n'auras jamais une protection si tu racontes pas que tu es engagé dans tel parti politique. Et du coup, elle avait fait une demande d'asile que basée là-dessus. Bien entendu qu'elle a été jetée. Elle n'avait pas été en mesure de donner des éléments circonstanciés et précis. Puisqu'elle
des prétendants à l'asile mal informés. Et pour traduire leur histoire en français, ils se débrouillent sans interprète professionnel. Donc la traduction n'est pas très fiable et impossible à vérifier pour les non-francophones. Certains demandeurs peuvent devenir des proies pour des vendeurs de vie qui fournissent des documents clés en main.
Vous avez des personnes qui sont mal intentionnées et qui vont vendre un récit bidon pour 400 euros. Et puis ensuite, vous avez des récits stéréotypés chez des personnes qui sont par exemple dans des réseaux d'exploitation sexuelle. Donc en ce moment, ça concerne notamment les ressortissantes nigérianes, guinéennes, congolaises qui sont sous l'emprise d'une ou d'un proxénète qui va leur dire surtout faut pas parler à une assistante sociale, surtout faut pas aller voir la police, surtout faut pas aller voir une association. Si tu parles, il y aura des représailles. Et donc du coup, elles amènent un dossier complètement stéréotypé à l'office.
Expliquer, écouter pour que ces personnes parviennent à exposer leur véritable histoire. Une démarche qui suppose de prendre le temps, comme l'explique Delphine Maréchal, avocate spécialisée en droit d'asile.
Il y a des gens qui ne peuvent pas tout de suite avouer leur histoire véritable. Je pense aux prostituées nigérianes, je pense aux homosexuels qui ont des histoires très compliquées, qui n'ont pas l'habitude de raconter. On a besoin de temps pour faire sortir la véritable histoire et c'est un temps en tout cas qui est à mon avis incompressible.
En 2017, 36% des demandeurs d'asile ont obtenu une protection.
Dossier signé Léa Gage. Le défenseur des droits donne raison aux avocats mobilisés contre l'installation de box vitrées dans les tribunaux. Ces box sécurisées par des vitres ou des barreaux constituent une atteinte à la présomption d'innocence et une restriction au droit de la défense, estime le défenseur des droits. Il recommande donc à la ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur d'abroger les dispositions réglementaires en vigueur qui prévoient la généralisation des box sécurisées dans les salles d'audience. La nuit a encore été agitée dans le quartier du Mirail à Toulouse, avec des véhicules et des poubelles incendiées. 5 personnes ont été interpellées. Le Mirail est un quartier classé zone de sécurité prioritaire, mais il a bénéficié ces dernières années d'un programme de rénovation urbaine. Alors pourquoi ces violences depuis dimanche ? Tentative d'explication avec Frédéric Bourgade.
Derrière les images de violence, il y a pourtant un quartier qui a bien changé. Vous habitez ici depuis combien de temps ?
Ça fait 8 ans. Oui, c'est un choix. Parce que c'est un quartier qui est décrié, mais on y vit très bien. Des très beaux appartements, très agréables, très lumineux, très grands.
Sonia.
Il y a beaucoup d'espaces verts et il y a des habitants vraiment très sympathiques. La révolte, elle ne vient pas du quartier en soi. plein de problèmes sociaux.
Manque de mixité sociale ?
Oui, oui, oui. Il y a des gens dans le quartier qui ont aussi du pouvoir d'achat. Ils logent ici, ils habitent ici, ils vivent ailleurs. Ils vont très vite au centre-ville faire les activités proposées à Toulouse.
Et les jeunes, eux, restent ici ?
Oui.
Autour de la place à Bâle, il y a des services publics et des commerçants dont certains ne comprennent toujours pas les raisons de cette nouvelle violence.
Franchement, on ne comprend rien à ce qui se passe entre les forces de l'ordre et les jeunes. Même nous, on n'est pas en sécurité.
C'est inquiétant, nous, notre famille, on compte déménager. Mais il y a une deuxième raison aussi, parce que c'est sale, les gens ils mettent les poubelles partout et tout ça, c'est pour ça aussi.
Ce qui n'a pas changé par contre, c'est le chômage, plus important qu'ailleurs. Le trafic de drogue, plus présent. Sur les murs, une signalétique indique d'ailleurs le prix de la cocaïne et du shit. Aussitôt effacés, les tags réapparaissent, ce qui crée une tension permanente ressentie par Joël, salarié sur un chantier.
C'est toujours plus ou moins tendu. Ouais. Même pour travailler, des fois, c'est compliqué. Il faut respecter, ne pas les déranger sur certains endroits. Voilà. Il y a des endroits plus propices, peut-être pour leur trafic ou... on évite d'aller les embêter.
La précédente émeute date de 1998, la mort du jeune Pipo. Cette fois, Bruno, dont le garage a encore été incendié, parle de jeter l'éponge.
On n'a pas de problème avec personne. L'an dernier, ils m'ont cassé 45 voitures, tout est rayé. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui c'est. Il y a quelques années, on m'en a brûlé aussi. Là, ça commence à peser maintenant. Tout ça, vous voyez, c'est un capital qui s'en va en fumée. C'est payé, c'est mon argent que je me suis gagné depuis que je travaille. Alors ce soir, oui, je me dis... qu'est-ce que je fais là ?
La violence actuelle a une raison, la pendaison d'un jeune homme en prison, mais il y a d'autres causes, explique Didier Martinez, syndicaliste policier.
Parfois, une simple étincelle suffit à susciter ce genre de comportement. La configuration est que depuis quelques semaines, une offensive des services de police a mis à mal l'économie souterraine, les trafics, les points de stup et de deal. Il y a eu de conséquentes saisies de substances, il y a eu des interpellations, et ces gens-là qui considèrent que leur territoire est outragé par la présence policière réagissent avec ce climat de tension et d'hostilité dès qu'il y a trop de forces de l'ordre à leur goût.
60 voitures brûlées, 23 interpellations, c'est le bilan des violences actuelles.
Et cet après-midi, un jeune émeutier a été condamné à 6 mois de prison, dont 3 fermes par le tribunal correctionnel de Toulouse. Il a reconnu avoir jeté une pierre sur un véhicule de police. Marie-Christine Saragosse est reconduite à la présidence de France Média Monde. Ce nouveau mandat de 5 ans débutera lundi prochain. France Média Monde, qui regroupe France 24 et RFI, était privée de PDG depuis 2 mois à cause d'un imbroglio administratif. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques réclame un accès sans entrave à Douma. Pour l'instant, ses inspecteurs ne peuvent pas se rendre dans la ville syrienne pour enquêter sur l'attaque chimique présumée. Une enquête de sécurité, une équipe de sécurité de l'ONU qui effectuait une mission de reconnaissance sur place a essuyé des tirs ce matin. Il va y avoir des élections très anticipées en Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan avance au 24 juin prochain les scrutins présidentiels et législatifs, initialement prévus en novembre 2019. Cette décision a l'avantage pour le chef de l'État turc de permettre l'entrée en vigueur de son régime présidentiel avant que la situation économique ne se dégrade trop. Les explications d'Anne Handlauer à Istanbul.
Si l'annonce en elle-même n'est pas vraiment une surprise, la date choisie par le président turc pour organiser ce scrutin anticipé est beaucoup plus précoce qu'attendu. Les Turcs iront donc élire leur président et leurs députés le 24 juin prochain, soit un peu plus de 16 mois avant la date initialement prévue, le 3 novembre 2019. Pour justifier sa décision, rendue publique après un bref entretien avec son allié du parti ultranationaliste, Recep Tayyip Erdogan cite les développements régionaux et les opérations militaires de la Turquie en Syrie qui rendraient urgent, selon lui, le passage au nouveau régime présidentiel. La réforme adoptée par référendum l'an dernier, qui décuple les prérogatives du chef de l'État, doit en effet entrer en vigueur juste après le prochain scrutin. Recep Tayyip Erdogan, qui espère sans doute profiter des succès récents de son armée face aux combattants kurdes syriens, se justifie aussi par la nécessité, je le cite, de lever les incertitudes sans tarder. Sans le dire, il pense bien sûr à l'état préoccupant de l'économie turque, qui montre des signes de surchauffe malgré une forte croissance. Mais avec la chute historique de la livre, l'inflation galopante et le climat de répression peu propice aux affaires, le président redoute plus que tout une crise et donc une punition des urnes. D'où son empressement à faire voter les Turcs et donc à entériner son régime le plus rapidement possible.
L'Italie toujours en quête d'une majorité gouvernementale. Le président Sergio Mattarella fixe l'échéance à vendredi. Il vient de charger la présidente du Sénat de rencontrer les vainqueurs des élections législatives du 4 mars pour voir s'ils peuvent s'entendre et former ensemble un gouvernement. Les précisions de Mathilde Imberti à Rome.
C'est une femme pressée qui s'exprime à la sortie de son entretien avec le président de la République italienne. Très brève déclaration de Maria Casellati, 71 ans, personnalité de droite de Forza Italia. Sa mission, comprendre si la droite et les 5 étoiles peuvent parvenir à un accord de gouvernement.
Je remercie le président Mattarella pour la confiance qu'il m'accorde. Je le tiendrai informé de l'évolution en temps réel. J'entends mener cette mission dans l'esprit de service qui est le mien. Depuis mon élection à la présidence du Sénat, les entretiens interviendront dans des délais très courts.
Le Quirinal laisse 48 heures seulement à Maria Casellati pour venir à bout d'un casse-tête que le président de la République n'a pas réussi à résoudre. Les antisystèmes, les 5 étoiles qui jusqu'ici rejetaient toute perspective de gouvernement avec Silvio Berlusconi, vont-ils mettre de l'eau dans leur vin? La Ligue de Matteo Salvini, l'extrême droite, va-t-elle finir par lâcher l'ex-cavaliere pour prendre le pouvoir avec les 5 étoiles? Rien de moins évident. Pourtant, de l'avis général, le temps presse. La situation internationale, les frappes en Syrie l'ont prouvé, exige que l'Italie se trouve un gouvernement.
Et puis c'est un jour historique à Cuba, du moins dans les symboles. Après 6 décennies de pouvoir exclusif des frères Castro, Raúl Castro va céder sa place. Les députés désignent aujourd'hui leurs représentants qui, à leur tour, éliront demain le futur président. Isabelle Labéry suit pour nous cette journée de transition.
Tout le décorum est en place. Les 605 députés sont appelés les uns après les autres. Ils se lèvent, applaudissements et hymne national. Raúl Castro est là, avec à ses côtés le numéro 2 du régime, Miguel Díaz-Canel, promis à sa succession. Dans le fond, à Cuba, rien ne change. La figure tutélaire du père de la Révolution est omniprésente. Esteban Miguel Morales, politologue et grand admirateur de Fidel.
C'est Fidel qui a jeté les bases de la société cubaine. C'était une figure absolue qui s'occupait de tout dans le pays. Celui qui va lui succéder et qui va succéder à Raúl va devoir assumer cet héritage et des personnalités très fortes. C'est difficile, il ne pourra pas le faire tout seul, il devra bien s'entourer. Même s'il n'est plus là physiquement, Fidel reste présent et je crois que l'on continuera à parler de lui dans plusieurs générations.
Le nouveau président devra donc jouer la continuité, y compris pour transformer le modèle économique. Dans le fond, à Cuba, rien ne change.
Isabelle Labéry, notre envoyée spéciale à La Havane, comme promis, retour en France pour évoquer le dossier Notre-Dame-des-Landes. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, s'est déplacé à Nantes pour présider une rencontre entre la préfète des Pays de la Loire et une délégation d'occupants de la ZAD. Les zadistes espéraient des concessions, ils ne les ont pas obtenues et Camille, de la délégation des zadistes, est amère.
Aujourd'hui, le gouvernement campe sur sa position, c'est-à-dire que ce ne sont pas de réelles négociations. Il affirme toujours que si on ne remplit pas des fiches individuelles avant le 23, il procédera à une opération, seconde opération d'expulsion massive avec toutes les conséquences que l'on sait. Nous, en contrepartie, depuis plusieurs semaines, on propose un projet de convention collective, unique, globale, qui correspond à la solidarité, aux liens qui sont tissés entre nos projets. Là, la préfecture n'a pas d'argument juridique pour retoquer cette convention. C'est une volonté politique d'isoler, d'individualiser pour mieux trier les habitants de la zone. Volonté que nous refusons.
On retrouve Véronique Reberotte en direct de Nantes. On entend la déception des zadistes. Est-ce que cette réunion a quand même permis d'avancer un tout petit peu ?
Non, écoutez, je sors de la conférence de presse de Nicolas Hulot et de la préfète Nicole Klein à la préfecture. Elle n'est pas terminée. En tout cas, le ministre de la Transition écologique a été clair. Non, le gouvernement avait fixé des règles, a été dit très précises. Personne n'a été pris par surprise avec ces règles. Donc un retour à la légalité au moment de la trêve hivernale. Possibilité aussi pour ceux qui le désirent de formaliser à minima leur projet, mais en aucun cas de façon individuelle, de façon collective, mais bien de façon individuelle. L'ultimatum donc de lundi prochain, la date du lundi 23 avril est donc maintenue. C'est une date importante, a dit Nicolas Hulot, pour régulariser encore une fois sa situation de façon individuelle. Le ministre a parlé en tout cas d'un un sentiment de tristesse et de gâchis. Il appelle tout le monde à revenir à la raison. En tout cas, l'État ne tremble pas. À la question que se passera-t-il le 23 avril, le ministre n'a pas répondu. En tout cas, il entend, il a ce sentiment que tout le monde comprend la demande du gouvernement, aussi pour ceux qui réclament la paix sur la ZAD et une poursuite du dialogue apaisé.
Véronique Rebérotte, en direct de Nantes. Du beau temps pour demain. Quelques nuages dans l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le sud du Massif central et les Pyrénées, mais sinon grand soleil. Température minimale de 7 à 15 degrés. L'après-midi, 19 à 24 près de la Manche et de la Méditerranée, 24 à 27 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.